Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Niger, une dizaine de personnes ont été tuées hier lors d'attaques dans la région ouest de Tillabéri, où les civils sont de plus en plus ciblés par des djihadistes présumés, ont indiqué à l'AFP des élus locaux. Et au Burkina Faso, le Parlement a décidé hier de proroger l'état d'urgence en vigueur depuis décembre 2018 dans plusieurs provinces de ce pays qui connaît une recrudescence des attaques djihadistes. 10 Russes et une Lituanienne présentés comme des touristes et interceptés il y a 9 jours dans une zone dangereuse du nord du Tchad, non loin de la frontière libyenne, sont libres de leur mouvement, a annoncé la police tchadienne à l'AFP. Le président nigérien Muhammadu Buhari se rend vendredi à Londres pour un bilan médical et doit être de retour au cours de la deuxième semaine de juillet au Nigeria, selon son bureau. Il y a 3 mois, un précédent congé pour raison de santé dans la capitale britannique avait déclenché une vive polémique au Nigeria. M. Buhari s'est rendu plusieurs fois à Londres depuis sa première élection en 2015. La nature de sa maladie n'a jamais été divulguée. La troisième vague de COVID-19 se propage plus rapidement en Afrique et frappe plus fort sur un continent confronté à une pénurie de vaccins, a alerté hier le bureau régional de l'OMS. Selon l'organisation, la pandémie refait surface dans 12 pays africains. Cette vague est notamment alimentée par une faible observance des mesures de santé publique, une interaction sociale importante, ainsi que la propagation de variants. Plusieurs activistes du mouvement contestataire du Hirak en Algérie, dont des enseignants d'université, ont été placés jeudi soir sous mandat de dépôt ou sous contrôle judiciaire, selon des organisations de défense des droits humains. Un militant des droits humains, critique de l'autorité palestinienne, est décédé hier peu après son arrestation par les forces de sécurité palestiniennes en Cisjordanie, suscitant l'indignation et des manifestations dans ce territoire occupé, ainsi que des appels de la communauté internationale à une enquête. L'Union européenne a écarté aujourd'hui la possibilité d'un sommet avec le président russe Vladimir Poutine, car les conditions ne sont pas réunies, ont annoncé plusieurs dirigeants à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. Le président Biden reçoit aujourd'hui son homologue afghan Ashraf Ghani pour évoquer l'avenir de l'Afghanistan au moment où le retrait en cours des troupes américaines ouvre une période d'immense incertitude. Le policier blanc Derek Chauvin, jugé coupable du meurtre de l'Africain-américain George Floyd, sera fixé ce vendredi sur le nombre d'années qu'il passera derrière les barreaux pour ce crime qui a bouleversé l'Amérique et le reste du monde. L'avocat de l'ancien président américain Donald Trump et ancien maire de New York, Rudy Giuliani, a été suspendu par la Cour suprême de l'État de New York, où il ne pourra plus pratiquer le droit jusqu'à nouvel ordre pour avoir fait une série de déclarations mensongères en vue de favoriser la réélection de l'ancien président américain. Les autorités américaines étaient toujours sans nouvelles jeudi de 99 personnes après l'effondrement spectaculaire dans la nuit d'un immeuble résidentiel près de Miami, faisant redouter un lourd bilan pendant que les secours fouillent les décombres. 18 personnes ont perdu la vie et 16 ont été blessées ce vendredi dans l'incendie d'une école d'arts martiaux dans le centre de la Chine, ont annoncé les autorités locales. La plupart des victimes sont des élèves de l'école âgés de 7 à 16 ans, d'après des médias locaux. Une équipe du département d'archéologie de l'Université hébraïque de Jérusalem a découvert dans le centre d'Israël des restes humains préhistoriques qu'elle n'a pu attribuer à aucune espèce homo connue. Et cette nouvelle espèce d'homme préhistorique questionne la thèse privilégiée selon laquelle l'homme de Néandertal a émergé en Europe avant de migrer vers le sud, ont annoncé jeudi des chercheurs israéliens. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Seydoudia, restez à l'écoute. La suite de nos informations. Les auteurs présumés d'une tentative de coup d'État en janvier 2019 au Gabon ont affirmé hier à leur procès qu'ils voulaient ainsi empêcher un putsch d'un frère du président Ali Bongo Ondimba, alors en convalescence après un AVC. Les détails avec Eric Manirakiza.
Les 9 accusés, jugés depuis le 18 juin notamment pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, et qui risquaient la prison à vie, ont affirmé à la barre qu'ils voulaient empêcher Frédéric Bongo de prendre le pouvoir par les armes et dénoncer notamment la présence de mercenaires sur le territoire, selon leurs avocats. Mais le président de la Cour spéciale militaire de Libreville, qui les juge, a rejeté hier les requêtes de leurs avocats pour faire comparaître le colonel Frédéric Bongo. Au moment du coup raté, l'officier était le chef du service de renseignement du pays. Il avait été écarté du premier cercle du pouvoir 9 mois plus tard pour être nommé attaché militaire de l'ambassade du Gabon en Afrique du Sud. Le 7 janvier 2019, un groupe d'une dizaine de militaires, mené par le lieutenant Kelly Ondo Obiang, membre de la garde républicaine, l'unité d'élite et garde prétorienne du président, avait appelé sur les ondes de la radio-télévision gabonaise au soulèvement populaire, disant vouloir sauver le pays du chaos. Mais il n'avait été suivi par personne et la tentative de putsch avait rapidement tourné court. 2 putschistes ont été abattus par les forces de sécurité. Kelly Ondon Obiang a été arrêté comme 8 autres militaires. Ali Bongo se trouvait alors en convalescence au Maroc à la suite d'un grave AVC 2 mois plus tôt.
Le Canada sous le choc après qu'une tribu autochtone a annoncé hier jeudi la découverte de plus de 750 tombes anonymes sur le site d'un pensionnat. Ces découvertes ont été faites 1 mois après l'identification des restes de 215 enfants. Abdourahman Dia fait le point.
Selon Cadmus Delorme, le chef traditionnel de la nation Kowesses, ce n'est pas une fosse commune, mais plutôt des tombes non identifiées. Le premier ministre Justin Trudeau, qui a dit sa peine jeudi dans un communiqué, a estimé que le Canada devait tirer les leçons de son passé et avancer sur le chemin commun de la réconciliation. Le chef de la Fédération des Nations Autochtones Souveraines de la province de la Saskatchewan, Bobby Cameron, a dénoncé aussi jeudi un crime contre l'humanité. Le seul crime qu'on ait jamais commis est d'être né autochtone, a-t-il affirmé. Nous trouverons d'autres corps et nous ne nous arrêterons que lorsque nous aurons trouvé tous les enfants, a promis le responsable. Ces découvertes sont une nouvelle illustration du calvaire subi pendant des décennies par des enfants autochtones dans des établissements scolaires catholiques du Canada. Elles ravivent le traumatisme vécu par quelques 150 000 enfants amérindiens, métis et inuits, coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture et en relais de force jusque dans les années 90 dans 139 de ses pensionnats à travers le pays.
Le président américain Joe Biden a annoncé hier un accord avec un groupe de 10 sénateurs républicains et démocrates sur un plan d'investissement massif dans les infrastructures. Il s'agit d'un net succès après des mois de négociations. Mais le chef de l'exécutif américain devra encore s'assurer du soutien de l'aile gauche de son parti. Le point avec Rosine Munezero.
Nous avons un accord, a lancé M. Biden à l'issue de cette réunion très attendue. Image rare, il est lui-même sorti pour l'annoncer sur le parvis de la Maison-Blanche en présence des élus. Selon la Maison-Blanche, ce plan s'appuie sur plus de 1 200 milliards de dollars d'investissement sur 8 ans, dont 312 milliards dans les transports, y compris les routes et aéroports, et 266 milliards dans d'autres types d'infrastructures comme les réseaux d'adduction d'eau ou l'Internet à haut débit. Les républicains et démocrates sont parvenus à s'accorder sur leur plus grand obstacle jusqu'ici, le financement de ce vaste projet. Le plan compte notamment renforcer les inspections fiscales pour réduire le montant des impôts impayés et rediriger des fonds débloqués en 2020 pour lutter contre la pandémie qui n'ont pas été utilisés, entre autres mesures. Pour le président démocrate élu sur la promesse de réconcilier l'Amérique, cet accord démontre que la démocratie américaine fonctionne et peut obtenir des résultats.
Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
La Banque mondiale a approuvé un prêt de 168 millions de dollars pour l'électrification rurale au Burkina Faso. Les fonds seront utilisés pour la mise en œuvre du projet solaire qui devrait permettre à 300 localités rurales de bénéficier de l'accès à l'énergie photovoltaïque. 120 000 ménages vont être ainsi raccordés, ainsi que des micro, petites, moyennes entreprises et des infrastructures communautaires. L'inclusion financière fait des progrès au Sénégal. Entre 2018 et 2020, le taux de personnes ayant recours aux services financiers est passé de 69% à 79%, selon le directeur national de la BCAO. Il souligne que la problématique de l'éducation financière doit être adressée dans toute l'Union économique et monétaire ouest-africaine, où plus de deux tiers de la population vit en milieu rural et près de 45% des adultes sont analphabètes.
Merci Claire. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Constant Omari, président démissionnaire de la Fédération congolaise de football, est interdit d'exercer toute activité liée au football pendant 12 mois au niveau national et international. Ainsi en a décidé la commission d'éthique de la FIFA. L'ex-président intérimaire de la CAF devra en outre payer une amende de 66 000 euros. La commission justifie cette sanction par les avantages reçus de la part de Lagardère Sport pour un total de 64 444 euros dans le cadre des négociations qu'il menait avec cette entité en lien avec la commercialisation de certains droits de retransmission télévisés attribués à la société LC2 et le recouvrement des impayés. Constant Omari a démissionné de la présidence de la FECOFA à 6 mois de la fin de son mandat. Des nouvelles de l'Euro, les huitièmes de finale débutent demain. On aura Pays de Galles, Danemark à Amsterdam et Italie-Autriche à Londres. Dimanche, les Pays-Bas font face à la République tchèque à Budapest et la Belgique joue le Portugal à Séville. Lundi, la Croatie défie l'Espagne à Copenhague et la France fait face à la Suisse à Bucarest. Enfin, mardi, on a le choc à Londres entre l'Angleterre et l'Allemagne et à Glasgow, Suédois et Ukrainiens s'affrontent. L'UEFA supprime à partir de cet été dans toutes ses compétitions de clubs l'avantage lié au but à l'extérieur, annonce l'instance dirigeante du football européen. Introduite en 1965, cette règle servait à départager deux équipes à égalité. Après leur match aller-retour, elle sera remplacée par deux périodes de prolongation de 15 minutes, puis par d'éventuels tirs au but à partir des phases de qualification des compétitions européennes. L'avantage du but à l'extérieur n'apparaissait plus justifié, explique l'UEFA. L'instance dit constater une réduction progressive de l'écart entre victoire à domicile ou à l'extérieur, ainsi que de l'écart entre but marqué à domicile ou à l'extérieur à chaque match. Jeux olympiques de Tokyo, la star des Brooklyn Nets, Kevin Durant, va mener une équipe américaine renouvelée pour les JO, révèle ESPN. Durant, tout juste éliminé des playoffs de NBA avec sa franchise, sera le seul joueur de l'équipe de 2016 qui a remporté une troisième médaille d'or consécutive à Rio pour les États-Unis après Pékin 2008 et Londres 2012. Même sans les superstars NBA, notamment James Harden de Brooklyn, blessé à une cuisse, l'équipe américaine sera favorite de la compétition avec également Draymond Green des Golden State Warriors, Damien Lillard de Portland, Bradley Beal de Washington, Bam Adebayo de Miami, Jason Tatum de Boston, mais aussi Kevin Love de Cleveland, déjà doré à Londres. Team USA joue son premier match contre la France le 25 juillet.
Merci Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedounia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre et ex-chef rebelle Guillaume Soro a été condamné en son absence mercredi à Abidjan à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Ses partisans dénoncent un jugement politique destiné à l'écarter définitivement du jeu politique ivoirien. Mohamedou Houmfa a recueilli la réaction du professeur Franklin Niamsi, conseiller spécial de M. Soro.
Il s'agit tout simplement d'une parodie de justice. Déjà, cette condamnation est contraire aux dispositions du droit international. Car, vous le savez sans doute, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples une cour souchée à l'Union africaine et qui est supérieure, en vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques, à l'ensemble des juridictions nationales ivoiriennes, avait déjà, courant en 2020, demandé à l'État de Côte d'Ivoire, au régime Ouattara, d'arrêter toutes les poursuites entreprises contre le président Guillaume Kibakori Soro et ses compagnons. Il s'ensuit que toutes les condamnations et tout le procès auquel on a assisté à Abidjan sont juridiquement nuls et de nul effet. Et comme l'a dit le président Guillaume Kibakori Soro, nous rejetons totalement l'abjection de ces verdicts frappés de ce que vous appelez aux États-Unis le lawfare, la manipulation de la justice par les pouvoirs dictatoriaux.
Alors cette condamnation survient au lendemain ou quelques jours après le retour du président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on peut établir un lien entre les deux événements?
Absolument. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est dans une logique, notamment depuis 2016, et sa décision en réalité de violer la constitution ivoirienne et de s'accaparer l'État de Côte d'Ivoire, lui et son clan. Cette logique, c'est l'élimination de tous les rivaux politiques de taille, à l'empêcher d'installer une monarchie bananière à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a prévu de mettre hors d'état de participer à la course politique le président dédié du PDC-RDA. Il avait prévu que le président Laurent Gbagbo finisse sa vie en exil à la prison de Scheveningen, à la Cour pénale internationale, et Alassane Dramane Ouattara, avant même que le verdict d'hier ait été énoncé contre notre président et leader Guillaume Kibakori Soro, avait déjà le 24 octobre 2020 carrément annoncé que pour lui, Guillaume Kibakori Soro méritait ni plus ni moins que la prison à vie, la prison à perpétuité. Donc tous les grands leaders, tous les hommes d'État ivoiriens sont dans le collimateur d'Alassane Dramane Ouattara et il ne va pas hésiter, si l'opposition ivoirienne est divisée, si le peuple ivoirien n'est pas mobilisé, à les éliminer les uns après les autres.
Alors le président Guillaume Soro est toujours en exil. Son avenir politique semble se compliquer. Qu'est-ce qu'il compte faire? Et pensez-vous qu'il a encore une chance de jouer un rôle politique en Côte d'Ivoire?
Aujourd'hui, Alassane Ouattara, par le jugement inique et absurde prononcé contre Guillaume Kibakori Soro et une partie de ses compagnons, a désigné Guillaume Kibakori Soro comme étant le leader authentique de l'opposition radicale à la dictature qu'il instaure. Par définition, Guillaume Kibakori Soro est donc en réserve de la République de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro représente la possibilité de gouverner autrement la Côte d'Ivoire et nous allons poursuivre à ses côtés le combat juste de la révolution pacifique citoyenne pour que M. Ouattara recule et que la Côte d'Ivoire vive.
Le professeur Franklin Niamsi, conseiller spécial de Guillaume Soro.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo a refusé de renouveler les licences d'exploration et d'exploitation du pétrole des sociétés de Dan Gertler dans le lac Albert. Les organisations anticorruption saluent l'initiative, car le milliardaire israélien est sous sanctions américaines. Mais ses avocats sont en passe d'aller en justice contre la RDC. Eli Isango a joint à Bounia dans l'Ituri, le point focal en matière d'hydrocarbures de l'ONG, le Congo n'est pas à vendre, Jimmy Munguriek Oufoy.
La décision du gouvernement congolais de ne pas renouveler les contrats de Dan Gertler montre d'abord qu'il y a une avancée que le gouvernement fait vers la transparence, vers le respect de la loi, parce que c'est un contrat qui pendant longtemps avait vraiment violé la loi et même le contrat de partage des productions qui était signé entre la RDC et aussi les sociétés capricates et Foxwell de Dan Gertler. Renouveler ce permis serait pour le gouvernement congolais de collaborer avec Dan Gertler qui est déjà sous sanctions américaines. Donc, si le gouvernement renouvelait ses contrats, ce serait une manière pour le gouvernement d'être complice des corruptions avec Dan Gertler. Donc, c'est une décision qui donne quand même la voix à l'État congolais qui s'engage vers la lutte contre la corruption et le respect de la loi, particulièrement du code d'hydrocarbures.
De leur côté, les sociétés de M. Dan Gertler dénoncent la partie congolaise, disons le gouvernement, de ne pas jouer leur part de partition dans la mise en œuvre du contrat. Qu'est-ce que vous en dites?
Quand on lit le contrat de partage des productions, le gouvernement n'a pas un rôle comme tel à jouer. C'est plutôt l'opérateur qui devait jouer ce rôle-là. Et dans les contrats, cas, l'entreprise devait mettre en œuvre le plan minimal des activités pendant la première sous-période qui est de 3 ans, et cela devait aller jusqu'au forage. Mais depuis que l'entreprise a commencé en 2010, l'entreprise a effectué quelques activités de recherche jusqu'à 2013 sur le bloc 2, et depuis 2014, pratiquement, il n'y a aucune activité dans le bloc. Je dirais que c'était plutôt le gel. L'entreprise a gelé le bloc pétrolier, et ça, c'était dans les habitudes des sociétés qui appartiennent à Dan Gertler. Souvent, ils achètent à moins cher pour revendre à plus cher. Alors moi, je pense que c'est ça ce qui était l'idée des sociétés Dan Gertler, de les revendre à plus cher. Malheureusement, pour eux, la sanction américaine qui a intervenu en 2017 a finalement causé un barrière parce que les investisseurs sérieux ne pouvaient pas interagir avec une société qui est sous sanction. Dire que le Congo, le gouvernement congolais n'a pas joué sa partition, c'est totalement faux.
Qu'est-ce qui n'était pas correct dans les contrats signés par les entreprises de Dan Gertler?
Dire que ce qui n'est pas correct dans les contrats serait trop fort. Je dois dire que ce contrat a minimisé beaucoup de coûts, beaucoup de revenus qui devaient revenir à l'État congolais. Parce que juste à côté des blocs 2, il y a directement le bloc 3 qui appartenait jadis à Total, qui s'est retiré en 2018 pendant la période électorale. Ce qui n'est pas correct dans les contrats de Dan Gertler, c'est que l'argent que la société devait payer à l'État congolais, c'était, je dirais, 10 fois moins que les revenus que Total payait pour l'État congolais. Mais ici, on sait voir clairement que le contrat a été signé de manière à favoriser les sociétés de Dan Gertler et de manière justement à favoriser quelques politiciens congolais.
Jimmy Munguriak Ufoy de l'ONG Le Congo n'est pas à vendre.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Les États-Unis ne pourront pas atteindre l'objectif du président Joe Biden de vacciner partiellement ou totalement 70% des adultes d'ici la fête de l'indépendance du 4 juillet, a annoncé mardi la Maison-Blanche. Les responsables américains concentrent leurs efforts sur les moyens de convaincre les Américains sceptiques quant à la nécessité de se faire vacciner. Un reportage de Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, repris ici par Eric Manigakidza.
Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 est tombé à son plus bas niveau depuis mars 2020. Malgré ces chiffres encourageants, la Maison-Blanche annonce qu'elle n'atteindra pas l'objectif fixé début juillet de vacciner 70% des adultes américains. Un seul problème, les jeunes américains. Jeff Zients, coordinateur de la réponse au COVID-19 à la Maison-Blanche.
The country has more work to do.
Le pays a encore du travail à faire, notamment auprès des 18-26 ans. La réalité est que beaucoup de jeunes Américains ont eu l'impression que le COVID-19 n'est pas quelque chose qui les concerne et ils ont été moins empressés de se faire vacciner.
La Maison-Blanche a annoncé mardi que 70% des Américains de plus de 30 ans ont été partiellement ou totalement vaccinés. Même si les centres de contrôle et de prévention des maladies affirmaient que les taux de vaccination ont augmenté dans les communautés de couleur au cours des dernières semaines, les législateurs américains affirment qu'il reste du travail à faire. La sénatrice démocrate Patty Murray.
Nous n'atteindrons pas les objectifs dans de nombreux États et communautés si nous ne continuons pas à nous attaquer à l'hésitation, à la désinformation et aux autres problèmes qui empêchent les Américains de se faire vacciner. Nous devons continuer à améliorer l'accès et à éliminer les obstacles qui empêchent les gens de se faire vacciner, en particulier les personnes de couleur.
Et comme près de la moitié des chrétiens évangéliques américains disent qu'ils ne se feront pas vacciner, un théologien a déclaré au Congrès que cette hésitation a un impact mondial. Curtis Chang, professeur à la Duke Divinity School.
And at the global level, American evangelical culture is high.
Au niveau mondial, la culture évangélique américaine est très influente dans certaines régions d'Asie et d'Afrique. Nous exportons déjà nos fausses informations et nos peurs dans le reste du monde, notamment via les médias sociaux.
Même si 20 à 30% des adultes américains ne sont pas vaccinés, les responsables américains sont optimistes et pensent qu'il n'y aura pas de quatrième vague aux États-Unis cet hiver. Dr. Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses.
Je ne pense pas que même dans ces circonstances, vous allez voir des choses comme 1000 décès par jour. Je pense que c'est un peu beaucoup, mais il y a un danger, un réel danger, que s'il y a une persistance d'une réticence à se faire vacciner, on puisse voir des poussées localisées.
Alors que les États-Unis s'efforcent d'augmenter leur propre taux de vaccination, la Maison-Blanche a déclaré en début de semaine que son objectif de partager 80 millions de doses de vaccins dans le monde d'ici la fin du mois de juin est rendu plus difficile par des problèmes logistiques.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Que savent exactement le Pentagone, le FBI et les autres agences américaines de renseignement sur les ovnis? Un rapport attendu cette semaine devrait apporter quelques éléments de réponse et soulever de nombreuses questions en même temps. Un sujet de Matt Dibble, récit de Claire Morin-Gibourg.
Un rapport très attendu sur les ovnis doit être présenté au Congrès américain cette semaine. Plus de 120 cas, appelés phénomènes aériens non identifiés par l'armée américaine, sont inclus, mais rien n'a encore été déterminé avec précision sur les origines de ces engins mystérieux, ont déclaré des responsables ayant connaissance de ce rapport et qui ont été interrogés par le New York Times. L'examen minutieux du phénomène par le gouvernement américain a été motivé par des enregistrements de la marine américaine montrant des objets inconnus manœuvrant de manière incroyable. Luis Elizondo a dirigé l'enquête du Pentagone sur les ovnis à partir de 2008. Il a fourni quelques explications à l'agence Associated Press.
Ces vidéos ont été enregistrées par des observateurs entraînés sur certaines des plateformes les plus sophistiquées d'Amérique. Il s'agit d'objets réels qui se sont trouvés dans notre espace aérien contrôlé et nous n'avons pas su ce qu'ils étaient.
Pour les législateurs démocrates et républicains, il est temps de déterminer si ces objets constituent une menace pour les États-Unis. Ce rapport devrait se concentrer sur la question de savoir si ces engins appartiennent à un adversaire de l'Amérique. La Russie ou la Chine auraient-elles pu développer ce qui semble être une technologie très avancée? C'est peu probable, estime Marik van Rennenkampf, analyste défense sous l'administration Obama.
Nous savons que la Chine a des difficultés avec la technologie des moteurs à réaction. La Chine compte sur l'espionnage pour sécuriser une grande partie de sa technologie de défense. La Russie a un budget de défense qui ne représente qu'une fraction de celui des États-Unis.
Compte tenu des informations limitées publiées jusqu'à présent, certains experts estiment qu'il est trop tôt pour savoir si les phénomènes sont le résultat des progrès technologiques d'un pays. Todd Harrison est analyste en aéronautique au CSIS, le Centre d'études stratégiques et internationales.
There could be explanations that don't require...
Il pourrait y avoir des explications qui ne nécessitent pas un grand saut technologique. C'est juste quelque chose à laquelle nous ne nous attendions pas et que nous n'avons jamais vu auparavant. Si nous apprenions que cela venait de Chine ou de Russie, cela serait vraiment un échec de nos agences de renseignement.
Il a fallu 6 mois pour rédiger ce rapport et des preuves disponibles depuis de nombreuses années ont été incorporées. Il semblerait que les responsables du renseignement ne soient toujours pas prêts à révéler leurs conclusions. Bien qu'il n'y ait apparemment aucune preuve d'extraterrestre, la théorie n'a pas été exclue.
D'après ce que j'ai entendu de la part des membres du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas assez de temps pour rédiger un rapport cohérent sur cette question. Nous n'avons pas l'analyse dont nous avons vraiment besoin. C'est un projet à long terme. Je pense que c'est une bonne étape.
Ajoutant au mystère, la Chine a son propre programme d'études des ovnis selon un récent article du South China Morning Post dans lequel un chercheur nomme les États-Unis comme une source possible de ces objets volants non identifiés.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.